RMC, entre les poteaux, Wilfried Templier.
Salut à toutes et à tous, un week-end nordiste à Lille pour la dernière ligne droite du top 14 et la hiérarchie qui n'a pas été bousculée. Le premier du classement, Toulouse, et le deuxième, La Rochelle, ont pris leur billet pour la finale en battant respectivement le Racing 92 et l'Union Bordeaux-Bègles. Ça ne souffre d'aucune contestation. Toulousains et Rochelais sont les patrons cette saison. Retour sur ces demi-finales, la tornade rochelaise, l'expérience toulousaine et en face, qu'a-t-il manqué au Racing et à l'UBB? Que s'est-il passé en une semaine entre la victoire des Franciliens face au Stade Français, leur impuissance contre les Maritimes, et de l'autre côté, l'UBB, comme l'a évoqué son coach, était-elle la meilleure équipe samedi soir? On en débattra. Mais samedi, il n'en restera qu'un, le doublé toulousain ou le premier titre rochelais. Rien ne va plus, faites vos jeux. On tentera de vous donner les clés de la finale de vendredi soir. Il y aura un frelon du week-end, il n'a pas passé un très bon hiver, mais il revient au meilleur des moments. On a retrouvé Arthur Retière, l'électron libre rochelais est de retour et ça fait des étincelles. Et enfin, l'actu des Bleus, le 15 de France tout d'abord, qui vient de décoller pour l'Australie avec 42 joueurs dont 22 néophytes. Qui sont les nouveaux et ce groupe a-t-il tout à gagner ou beaucoup à perdre? On vous explique. Et puis la terrible déception du 7 qui n'ira pas au JO, enfin pour les hommes, parce que les filles ont leur billet. Pour évoquer toute cette actualité, les poteaux qui sont là aujourd'hui, lui, il en a soulevé des boucliers, trois même. C'est lourd Denis, un bouclier?
Ouais, c'est lourd, non, c'est léger quand tu le gagnes.
C'est léger, évidemment.
C'est plutôt l'inverse.
Vous l'avez reconnu, c'est Denis Charvet qui est avec nous. Jeff Paturo n'a pas soulevé grand chose vu ses biceps. Un cajot vide peut-être
rigolo,
quand il a le temps. Bonjour Jean-François.
Bonjour.
Je t'aime Jean-François.
Cordialement.
Pierre, lui, Pierre Amiche, lui, c'est l'inverse, c'est notre Winnie Antonio. Salut Pierre.
J'aimerais tellement avoir sa jolie barbe. Bon, ouais, malheureusement, ça ne va pas le faire.
Et avec nous, le Will Skelton du milieu olympique, Manu Massicard.
Ouais, sans la taille et sans le poids.
Après le passage au sèche-linge, peut-être.
C'est ça, exactement.
Allez, on vous embrasse, les amis. On y est presque. Le dernier carré s'est transformé ce week-end en duo d'inséparables. Oh, le c'est Rochelet sur cette mêlée. Le départ de six côtés. C'est terminé. Victoire de La Rochelle, 19 à 6 en demi-finale du top 14.
On avait deux pièces maîtresses qui nous manquaient, mais faut tirer un coup de chapeau aux joueurs qui les ont remplacés. C'était une équipe de chiens.
Ça va sortir sur l'extérieur, Ramos qui s'enfonce. L'essai signé Thomas Ramos. L'essai de Bordeaux. C'est de Bordeaux qui change tout sur une énorme charge des avants. Bon messieurs, il y a un choc énorme là ici à Lille, un choc énorme pour Ntamack avec un Bordelais au milieu du terrain. C'est un rouge mais il est déjà sorti, ce Tony, il est sorti KO en fait. Ramos qui dégage, le Stade Toulousain bat l'Union Bordeaux-Bègles 24-21 et rejoint le Stade Rochelais en finale. La finale du top 14 sera la revanche de la finale de Champions Cup. L'affiche sera La Rochelle contre Toulouse vendredi soir au Stade de France. Et ça promet, évidemment, c'était au stade Pierre-Mauroy, dans cette magnifique ville de Lille où Denis Charvet a découvert la bistoufle. Alors c'est pas un terme coquin, hein, c'est juste un café amélioré.
D'ailleurs on remercie celui qui nous l'a offerte.
Ouais, voilà.
Son nom, mais bon.
Voilà.
Non mais ils se reconnaîtront parce qu'ils écoutent tout de voilà, des Moscato Show, des Moscas rugby et tout.
Ouais,
voilà.
Donc, ouais, c'était très sympa, c'est vrai. Alors le stade Rochelet a d'abord, messieurs, catapulté le Racing 92 hors de la route vers le titre. 19-6 dans un match encore une fois d'un rare engagement. On a compté les blessés côté francilien, hein, un front ouvert pour Klassen, un doigt cassé pour Bobigny, une épaule pour Le Guen. Les Rochelais les ont marqués au fer rouge et avant d'en parler, ce n'est pas le demi de mêlée Maxime Machenot qui dit le contraire, écoutez-le.
Ils ont des joueurs qui sont très massifs, ça c'est une certitude. Je crois des Skelton, il n'y en a pas deux ou trois dans le championnat et il a porté toute sa puissance à lui seul. Des fois, il détruit des ballons portés. Ils n'ont pas joué le week-end dernier dans des matchs de très haute intensité. Ça peut jouer, bien sûr. Physiquement, ils ont été supérieurs à nous d'en tirer des enseignements et de revenir encore plus fort l'année prochaine.
Marqué au fer rouge, Maxime Machenot-Denis, tu étais comme moi à Lille. Tu pensais les Rochelais, tu étais comme moi aussi, tu pensais les Rochelais usés. Et t'as été un peu surpris peut-être.
Oui, après il y avait quand même l'interrogation de savoir si ce frais qu'ils avaient emmagasiné pendant 15 jours l'aurait été bénéfique. Et effectivement, ça a été bénéfique pour eux. Ils ont pu recharger à bloc voilà, les batteries. Et c'est vrai que physiquement, ils ont fait exploser le Racing qui lui, mais bizarrement, ce barrage leur a fait mal parce qu'on les a sentis très émoussés très vite d'ailleurs. Au bout de 15 minutes, on a vu qu'ils avaient les mains sur les genoux, qui baissaient, qui soufflaient. Et on a compris très vite qu'ils auraient du mal à s'en sortir.
Manu, au-delà du physique, on a l'impression qu'il y a un plan de jeu rochelais précis, respecté, qui n'en sortent pas.
Ouais, d'abord, cette équipe a retrouvé un très gros mental après la finale perdue de Coupe d'Europe. Ça, c'est pas la moindre des performances. Parce que, pour en avoir discuté avec certains, la déception, elle a été réelle et importante. Et puis derrière, comme tu le dis, c'est cadré, c'est millimétré. On le voit sur l'essai. La moindre action et la moindre stratégie était mise en place. La première occasion, ils l'ont transformée. Il n'y en a pas eu beaucoup, hein, notamment sur la première mi-temps. Et ils sont au rendez-vous. Ils ont laissé passer l'orage parisien en début de match. Et à la première occasion, bim, sur ce petit côté bien mené par Carvalho, ça transforme. Oui, La Rochelle maîtrise largement son sujet aujourd'hui.
En même temps, ils étaient en maîtrise totale. Mais pour être en maîtrise totale comme ils l'ont été, il faut être lucide. Il faut être en forme. Aussi. Dominant, mais parce qu'ils sont en forme.
Ils ont tout pour eux. Et oui. Sur la demi-finale, ils ont tout pour eux. Le physique, la lucidité, le mental et la maîtrise. Le plan de jeu.
Ouais. Alors, ce côté plan de jeu, Pierre, Stade Rochelet a une façon de faire, il n'en change pas, on disait. Mais ça peut être dangereux, ça fait très britannique. Plan A, et quand si ça coince, il n'y a pas de plan B, hormis le carton rouge qui aurait pu changer des choses en finale de Coupe d'Europe, c'est ce qui est apparu aussi face au Stade Toulousain, qu'il a peut-être fallu faire un peu différemment.
Je ne sais pas s'il faudra faire différemment, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette équipe, elle a gagné vachement maturité en 6 mois à peine, parce que rappelez-vous le match aller à De Flandre, ce match Stade Rochelet Racing, c'était une bouillie de rugby, c'était horrible à regarder, ça avait fini 9-6, c'était affreux, ils avaient eu zéro maîtrise. Là, vendredi, j'ai vraiment eu l'impression de voir le Munster en jaune et noir, c'est-à-dire que tout est clair, précis, simple, il n'y a pas beaucoup de prise de risque dans un jeu hyper tactique. Alors oui, c'est pas la meilleure publicité pour le rugby, mais La Rochelle gagne des matchs là sans trembler. Hein. C'est-à-dire que passé la demi-heure de jeu, on a senti que le Racing, ils n'avaient pas de solution et c'est rare.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des absents et tout le monde reste dans le cadre. Il y a un cadre prédéfini.
C'est vrai.
Même si les absents.
John Gibbs, Jeff l'avait dit, il avait du match. Hein, il parlait de son collectif.
Mais à l'inverse, le Racing a manqué de tout, de maîtrise, de stratégie, d'intelligence tout simplement.
De puissance.
On peut parler qu'il manque de puissance, mais après, il y a aussi la fraîcheur, mais la fraîcheur après aussi l'intelligence. Je crois que Finn Russell a montré ses limites quand on joue des matchs de très haut niveau.
Ouais, ce qu'ils cherchent, ce qui change aussi, c'est par rapport au match précédent, à La Rochelle, par défaut, puisque tu n'avais plus de centre, les Rochelais ont aligné deux ailiers. Et à partir du moment autour de la 20e, 30e, quand les Rochelais se sont mis à monter très rapidement en défense, Russell a complètement perdu les pédales. Il avait plus le temps de toucher le milieu de terrain que les Rochelais, les défenseurs Rochelais avaient déjà franchi la ligne d'avantage. Alors, et ça, c'est nouveau du côté Rochelais. Enfin, on l'avait pas vu à ce niveau d'expression depuis un bon moment.
On finit sur le Racing, c'est l'énorme quand même déception, hein, qui s'est fait casser la gueule, n'ayons pas peur des mots, hein, même si ça piquera leur orgueil d'entendre ça. Jeff, on se méfiait pourtant terriblement de cette équipe après son barrage face au Stade Français. Comment expliquer cette fin de saison et cette demi en pétard mouillé comme ça?
Les Galactiques, c'était plutôt des Galagmythes. C'est vrai que c'était assez
bravo.
Parce que le Racing a du cœur, mais cœur de loser ce week-end, malheureusement.
Il content, Jackie.
Non, mais c'est vrai que le Racing n'a pas évolué à son niveau. Derrière, il ne s'est pas passé grand-chose malgré ses joueurs de talent à tous les postes des internationaux, et notamment Gaël Ficou et Virimi Vakatawa. Mais devant, ils ont pris une leçon, les Racingmen. Le pauvre Anthony Klassen, qui fêtait le dernier match de sa carrière chez les pros, il n'était pas invité dans ce combat, malheureusement, contre La Rochelle. Devant, en première ligne, aussi, c'est pareil, ça piquait, il n'y a pas eu photo. Et c'est vrai qu'il va y avoir une remise en question au Racing, puisqu'on se dit qu'on a mis beaucoup d'argent sur les lignes arrières, même si Jackie Lorenzetti n'arrête pas de dire que ce n'est pas les lignes arrières les plus chères du top 14. Mais devant, il manque des joueurs, il manque de la puissance, il manque un deuxième ligne plus complet. Il y a un vrai chantier qui va s'ouvrir pour Laurent Travers.
Denis, que faut-il changer ?
Changer, c'est dur à dire. Je pense que déjà, mais les fermés, ils souffrent énormément.
Faut pas tout mettre à la poubelle, comme disait Laurent Travers, peut-être.
Non, mais il faut des joueurs capables de tenir une mêlée, parce que là, on les a vus beaucoup en souffrance en demi-finale. On les a vus aussi en souffrance contre le Stade Français en deuxième mi-temps. On sait déjà ce secteur-là qui est vraiment vraie souffrance. Après, les deux secondes de ligne, l'Euro peut pas tout faire toute une saison. Donc, il faut de la consistance en seconde ligne. Ça manque énormément.
Moi, j'ai pas compris des tas de choses dans ce match. Vous allez peut-être pouvoir m'éclairer. Moi, j'ai pas compris la touche du Racing, qui était quand même une des meilleures du championnat. Il n'y avait pas spécialement de bloc de sourds.
Ouais, il manque chez nous. Hein.
Les chandelles de Russell dans ses 22 mètres, Pyramide.
Non, mais tactiquement, j'ai pas compris ce qu'ils ont essayé de faire au retour des vestiaires. J'ai pas compris le coaching du staff du Racing. Parce que quand même, la sortie de Macheneau, soit elle est tardive, soit elle est trop tôt, mais je vois pas à quel moment, pourquoi à ce moment-là.
Non, parce qu'ils sont fatigués.
À ce moment-là, s'ils sont fatigués, tu les sors avant. En fait, la consigne, elle est très simple. Allez jouer chez eux. Mais c'est hyper limité. On peut pas gagner un match juste en tapant dans le ballon et en essayant de faire mieux que La Rochelle là-dessus.
Je suis désolé.
C'est hyper décevant de voir le Racing ne rien produire.
On est obligé de cibler un joueur. Moi, par expérience, je pense que Finn Russell ne peut plus jouer à l'ouverture de ce club. C'est pas méchant.
Ça dépend. Ça dépend quel match. Oui.
Non, mais quel match. Mais dans la durée.
Il a déçu dans beaucoup de grands matchs.
T'es obligé de s'installer en 10 dans la durée. C'est pas possible à ce poste-là. C'est trop crucial.
Il n'en a pas, Denis.
Non, mais c'est ce que je te dis parce que quand Wilfried me dit qu'est-ce que tu changerais, je dis juste Finn Russell. C'est pas qu'il peut pas jouer. Je pense qu'il a sa place dans cette équipe, mais pas à l'ouverture. Il ne peut pas. Il n'a pas ça dans lui.
Si, mais pas seul.
Ou
pas
seul. Ouais. Ou alors tu mets pas
un 12, un 5, 8ème à côté.
Je suis pas sûr parce qu'il est toujours l'inspiration. Oui, mais il est toujours l'inspiration du moment. Il n'est pas dans la stratégie. Il n'est pas dans la construction.
Malheureusement, il est meilleur.
Mais non, ce joueur n'est pas dans la construction. Il est incapable de construire.
Il passe pas assez sur les matchs.
Rappelez-vous la finale de Coupe d'Europe contre Exeter en début de saison.
Exactement. Il est passé à travers. Mais c'est un défaut qu'il a qui est majeur. Mais
c'est un super joueur.
Tu le mettrais au centre ou à l'arrière. Mais je pense qu'il ferait des étincelles aussi. Mais bon.
Messieurs, Manu, Jeff, est-ce que vous pensez que le président Lorenzetti va modifier son staff?
C'est en cours de réflexion.
Ouais, j'ai la même information. Ouais.
Mais ça doit venir.
C'est feutré comme info.
Ça doit venir de Laurent Travers. Et ça doit venir de Laurent Travers. C'est lui le vrai patron inamovible, ce que disait Jacky Lorenzetti ce week-end. Est-ce qu'il veut des compétences en plus? C'est en cours de réflexion.
D'accord. Alors ça, c'était pour la. Oui, tu voulais ajouter quelque chose très rapidement, Manu?
Ouais, non, mais on tape sur Russell.
Non, mais okay. Je tape pas. Je
non, relance pas la magie.
Non, mais on tape sur Russell. Je suis entièrement d'accord avec vous.
J'adore ce joueur.
Le seul truc, c'est que si tu mets Russell, il te faut un accélérateur en neuf. Et l'accélérateur, il l'avait jusqu'à maintenant, ça a bien tourné avec le petit Le Garec. Je me pose la question de savoir s'ils auraient pas été mieux à jouer cette phase finale avec Le Garec à l'ouverture pour jouer pour faire jouer la ligne de trois quarts des Galactiques.
Bon, écoutez, on verra ça sur la saison prochaine si ça se répète ou pas. C'était pour la première demi-finale. La deuxième était beaucoup plus serrée. Victoire du Stade Toulousain sur l'UBB 24-21. Les Toulousains vraiment sur la jante pour le coup. Hein. C'est l'impression qu'ils nous donnent, mais toujours là. Et ça donne la soupe à la grimace pour Christophe Furios.
C'est une défaite, comme tu dis, qui aurait pu être un succès. Je pense que la meilleure équipe a pas gagné ce soir. Même si on a beaucoup de respect pour cette équipe de Toulouse, mais ce soir, je pense qu'on mérite de gagner. On n'a pas tout contrôlé. On a fait des erreurs, notamment en première mi-temps. Je pense que ça nous a pas permis de bien rentrer dans le match, de mettre encore en difficulté. Après, il y a les coups du sort qui sont toujours en faveur des Toulousains. Ça fait 4 fois qu'on les joue, 4 fois c'est pareil.
Les coups du sort. Bon, on ne reviendra pas sur le carton rouge donné à Sotoni hein, pour plaquage au.
Non, mais qui est totalement. Ouais,
c'est logique. Ouais, pas de discussion possible. C'est, bon, laissez Len Tabac, alors si, je l'ai revu.
A priori, ouais. Si.
Bah, non, moi, je pense pas, il faut se baisser un peu. Oui, faut passer les gars là-dessus.
Mais c'est pire que ça. Pour moi, c'est un attentat.
Oui, oui, il faut se baisser un peu pour plaquer. C'est pas possible.
Quand j'entends dire certains consultants qui disent qu'il n'y a pas carton rouge, c'est grave.
Non, mais c'est un scandale de dire ça. Quand tu connais un peu le rugby, tu es obligé.
Les gars, sont tous d'accord, ça va.
Alors pour aller dans le sens de Christophe Furios, il y a un moment de jeu, moi je trouve très cruel pour eux, c'est la dernière percée du Berti, il reste 6 minutes à jouer ou 5 minutes à jouer.
La faute de Colby au sol.
Mais il y a carton jaune à 200%.
S'il le sanctionne, c'est vrai que ça, on peut penser qu'il tue l'action.
Mais à 14-14, il reste 6 minutes, c'est fini, ils ont perdu les Toulousains. Ils vont péter le touche, c'est fini.
Comme il y a carton sur Iguin Botam en première mi-temps.
Aussi. Aussi.
Pareil.
Sur le carton jaune, le 8 Guim Botam sur Chocobarès.
Bien sûr.
Mais à ce moment-là du match, est-ce que vous êtes tous d'accord, Manu?
Ah oui. Je ne comprends
Pierre,
pas
Jeff.
Pourquoi. Le problème, le carton jaune. Pourquoi carton jaune? Parce que il y a action d'essai derrière. C'est pas autrement que je dis ça.
Il y a, carton. Il y a après ce qui reste à mieux négocier, c'est la pénalité.
Oui, mais ça c'est parce qu'ils sont à 14.
Pour moi, c'est une vraie différence.
Non.
C'est incompréhensible.
Il y a Wookie qui lève les bras en disant mais on va en touche. Bien sûr, après la pénalité.
Non, mais c'est incompréhensible. En fait, on va encore une nouvelle fois débattre de carton jaune, pas carton jaune, machin. Mais
c'est un choix.
Bordeaux, ils se perdent le match tout seul.
Exactement.
La pénale touche à la 72e. Ils sont à 14, un arrière en moins. Ils décident de dévier la touche alors qu'ils ont avancé sur tous les ballons portés depuis le début. Déjà ça, bon bah ok, ouais. Pourquoi pas. Mais à la fin, 30 secondes après, c'est en avant, des ballons dégueulés. Les points au pied pris à 3 minutes de la fin, on l'a dit, aucun sens. Alors ils ont le bonus défensif, ils vont pouvoir être hyper contents quand ils vont rentrer chez eux. Puis après, le jeu au pied de Jalibert passé la 60e. C'est pas du jeu au pied de pression, c'est pas du jeu au pied de
pression.
On rend le ballon systématiquement et arrivé à la 76e ou 67e, ils tapent. Et ça, c'est pas la faute des arbitres, c'est pas la faute de Toulouse. Ouais. C'est pas injuste, c'est pas les meilleurs qu'on perdu.
Alors justement, on enchaîne. Manu, qu'est-ce qui manque à l'UBB pour passer cette dernière étape?
C'est juste ça. Une petite dose d'expérience en plus, parce que cette équipe, elle a beaucoup de choses. Elle a un gros pack, elle a un banc, elle a une belle ligne de trois quarts. Franchement, avec un peu plus d'expérience de Jalibert, parce que on loue tous ses qualités, mais il sera pas loin, quoi.
Ouais. Et puis il manque un tout petit peu de bulbe aussi. C'est-à-dire qu'on finit avec un paquet d'avant très solide, très costaud, tout ça. Mais au final, il n'y a personne qui est capable de dire à Jalibert ou à d'autres, bon ok les gars, calmez-vous, 30 secondes, regardez le tableau d'affichage.
Après c'est étouffant. La fin de match est étouffante.
Ouais, mais après, bien sûr, mais tu peux avoir un peu de recul au moment où tu sais que tu dois gagner et qu'il y a 6 points d'écart.
Moi j'entends ce que vous dites, mais après il y a quand même un patron qui est le 9 dans une équipe. C'est avant le 10, il y a le 9.
Ça vaut pour Russell alors. Donc tu m'as donné raison sur
Russell. Ne repartez pas là-dessus.
Non mais d'accord. mais je suis désolé, je veux pas câbler le petit Loukou, mais tant à la 72e.
C'est les scores.
Non mais avant, Jalibert demande un changement de côté alors que les avant pylônes, il y a 15 à 14, je sais pas si vous venez de cette action-là, ils sont dans les 22. Jalibert fait un compte, change de sens. Tape à suivre, il rend le ballon à Dupont qui dégage à 80 mètres. Et derrière, deux minutes après les conséquences, il y a carton rouge. Mais c'est comment on peut faire des fautes pareilles alors que, comme tu le disais très bien Pierre, les avances sont dans l'avancée. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui... Il faut continuer devant. Comment tu redonnes le ballon derrière? Mais voilà, c'est des choix qui ont fait que, à un moment donné, ils ont perdu le fil, ils ont perdu le match.
C'était leur première demi-finale quand même.
Ouais, c'est sûr, et ça compte. On en revient toujours à ça.
Ça compte. Mais les dés sont maintenant jetés, c'est la lutte finale. Et du coup, on rentre en mêlée. C'était pas mal ça, non? Ça vous a plu?
C'était excellent.
La finale du top 14 opposera vendredi soir le Stade Toulousain au Stade Rochelet. Le doublé toulousain, le premier titre pour La Rochelle. C'est la première fois que l'affiche est la même entre une finale de Coupe d'Europe et celle de top 14. D'ailleurs, ces deux équipes ne se quittent plus cette saison, mais ça pourrait durer, Jeff.
Oui, effectivement, ce sera la cinquième confrontation de la saison entre les deux équipes. Ça avait commencé au mois d'août, un petit peu dans l'anonymat, un match de préparation. Carton des Toulousains, 38-0 à Limoges, avec 6 essais, évidemment, c'est anecdotique. Rendez-vous quelques semaines plus tard, deuxième journée de top 14, nouveau succès des Toulousains, cette fois à domicile, 39-23 contre ces Rochelais, grâce notamment à doublé de Colby, Yann et Seth Guitoun. Au mois de février, fin février, sans les internationaux, cette fois Toulouse, bien que malmené, l'emporte 14-11 avec un essai d'Huget et 3 pénalités de Homs. Et enfin, évidemment, jusqu'à présent, le match le plus important entre ces deux équipes, ça reste la finale de Champions Cup le 22 mai dernier à Twickenham. Les hommes du Gomola étaient malmenés. Il faut rappeler aussi que les Rochelais avaient pris un rouge rapidement à 28e minute, si je ne dis pas de bêtises, pour Botia. Et ça a changé beaucoup de choses. Vendredi, cinquième confrontation. Est-ce que ça change de connaître l'adversaire? On écoute Thomas Ramos.
Déjà, on a joué La Rochelle 4 fois, donc on fera la cinquième. Forcément, tous les matchs sont différents. Ça sera un autre contexte, on sera en France. On aura un peu plus de supporters aussi. Eux aussi, ça sera un tout autre contexte, avec peut-être aussi des équipes différentes au vu des faits de jeu ces derniers temps. C'est 50-50, de toute façon, une finale, tu peux pas prétendre être favori. Voilà, ils ont fait un gros match hier, ils se sont appuyés sur un gros paquet d'avant. Donc, comme le disait Jules, on va bien récupérer, bien se préparer et essayer de faire un gros match la semaine prochaine pour gagner tout simplement.
Et on rappelle que sur le papier c'est une finale plutôt logique entre le premier du top 14 et le deuxième, les deux finalistes pour la première fois de l'histoire aussi, ce sera la même affiche en finale de Coupe d'Europe et en finale de top 14, et ce duel entre Toulouse et La Rochelle a tout pour devenir un classique du top 14.
Alors quel impact, merci Jeff, quel impact pour tout ça. Denis, est-ce que tu penses que les Rochelais sont hyper revanchards et surmotivés, ou quelque chose va trotter dans leur tête en se disant ah encore c'est Toulousain?
Attention, l'expérience, on en parlait d'expérience il y a deux minutes, une finale, les Toulousains n'en jouaient, eux n'en ont joué aucune. Mais sur ce qu'on a vu, alors il y a 24 heures de plus de récupération pour les Rochelais, c'est pas neutre, c'est beaucoup. Pour moi, c'est beaucoup. Les Rochelais sont plus frais en ce moment, donc ça va se jouer sur la fraîcheur, forcément. Et puis après, on va forcément parler de la discipline, parce que regardez la dernière finale, c'est un fait de jeu qui les condamne et qui les empêche d'être champions d'Europe. Donc voilà, il y a beaucoup de trucs qui vont rentrer en compte qu'on ne peut pas maîtriser maintenant, mais sur la logique, vous voudrez que la Rochelle l'emporte, évidemment.
Écoutez l'entraîneur adjoint responsable des trois quarts, Sébastien Boboul, pas perturbé mentalement les Rochelais apparemment.
On ne se satisfait pas juste d'aller en finale en fait, et je crois que le club et les joueurs veulent ramener un titre. Et puis je tiens à souligner vraiment le groupe qu'on a cette année, parce que tout le monde a participé, il y a plus de 50 joueurs qui ont participé à cette saison. Donc voilà, on a encore rien gagné, c'est ce qu'on dit, les joueurs le savent, on le sait, et voilà, on ne veut pas se satisfaire juste d'aller en finale, on l'a vu à Twickenham, on ne veut plus vivre ça.
On ne veut plus vivre ça. Manu, ça va décupler leur motivation?
Ouais, pour avoir vu Pierre Vénère la veille de la rencontre, on sent vraiment que le Stade Rochelet a franchi un palier et qu'ils ont digéré cette première échec en finale. Ils savent que quand les occasions se présentent, il ne faut pas les rater. Twickenham s'est passé et là ils y reviennent, ils vont y revenir avec une envie mais décuplée, encore plus forte. On l'a vu sur le terrain de toute manière, c'est un visage de La Rochelle qu'on a avec autant de maîtrise et autant de détermination qu'on ne lui connaissait pas. Reste à savoir comment ça va se transformer vendredi soir parce qu'avec une forme de pression qui va forcément revenir, avec le regard, avec les Toulousains en face.
Des retours des Toulousains aussi, quelques retours.
On va en parler.
Ouais, mais du peut-être. Côté Rochelais, ça va sans doute se jouer dans les têtes, parce que physiquement, ce qu'on vient de voir, ils sont plus forts. Et ils sont sans doute aujourd'hui mieux organisés.
Écoutez Hugo Mola maintenant, le manager toulousain, il parle du physique de ses joueurs, mais a confiance en eux.
La finale, je disais que c'était un moment important pour nous, pour cette génération. Je ne sais pas si on aura l'énergie pour aller chercher cette finale. Mais comme ils l'ont dit aussi justement, on va se préparer, se reposer. Et puis on va essayer d'avoir un bon Stade toulousain, peu importe qui sera sur le terrain. On va essayer d'avoir un bon Stade toulousain vendredi soir avec un jour de moins de récup.
Ouais, il le dit d'ailleurs, hein, il le glisse avec un jour de moins de récup. Jeff,
il a répété trois fois. Il y a une donnée importante, Ntamack joue pas, donc Ramos va passer à l'ouverture.
Oui, Ntamack, on l'annonce forfait. Hein,
Donc, Ramos, c'est un très beau joueur, il prend bien la ligne, mais il faudra qu'il gère bien son match face à une pression rochelaise qui est énorme.
Moi, ce qui me fait peur là-dessus...
Ouais.
Pardon, vas-y.
Alors, l'état des lieux des groupes, je voulais parler justement de ça, Jeff. Est-ce qu'on sait s'il y a des retours possibles? On parle de Doumerou à La Rochelle, c'est la question. Hein.
La bonne nouvelle en tout cas pour La Rochelle, c'est que Doumerou était à l'entraînement ce lundi, et ça c'est plutôt bien pour eux, puisqu'on rappelle que Doumerou n'était pas là le week-end dernier, victime d'une commotion, c'est ce qu'il se dit contre Clermont, et son retour ça pourrait faire du bien. Est-ce que vous enlevez le petit Jules Favre qui a fait plutôt un bon match? Ce serait la logique de retrouver un cadre, surtout que ce sera son dernier match à Doumerou avec cette équipe avant d'aller à Montpellier. En face aussi, est-ce qu'il va y avoir des retours en deuxième ligne? Ça, Wilfried, tu es mieux placé pour moi que moi pour le dire en vrai.
Doumerou, c'est sûr, c'est le plus-value. Mais ouais, après, il faut qu'il manque pas de rythme aussi sur une finale qui va être intense.
Ouais, c'est pas grave, tu fais rentrer et puis après tu
peux le sortir. Mais après, bon, moi j'étais impressionné par Roule, l'ailier sud-africain qui a fait un match incroyable au centre, qui a gêné, comme tu l'as dit Manu, très justement, les Galactiques parisiens.
Ouais. Bon, si vous entendez du bruit, hein, pour tout vous avouer les coulisses de ce podcast, hein, je suis à Toulouse au stade d'Ernest Vallon, il y a un orage, c'est la fin du monde. si vous m'entendez plus, c'est que je suis mort.
Bah non, mais Wilfried, c'est pas vrai, il fait beau là, mon bureau.
Ah bah, bouge pas, ça arrive. Pierre, juste pour finir là-dessus, que doit retenir La Rochelle de la finale de Coupe d'Europe selon toi?
Que jouer à 15, c'est mieux.
Plus sérieusement,
non, que le stade toulousain est prenable, que l'UBB a montré la voie, que si devant le stade toulousain est dominé, c'est comme toutes les équipes de la planète rugby, bah ils sont moins bons, et que peut-être que si West est dans un grand jour, et ben La Rochelle pourra rivaliser, parce que ce sera la grande question.
Il va falloir qu'il soit bon au pied aussi.
Est-ce que La Rochelle est capable de rivaliser dans une finale avec un buteur qui n'est pas un buteur de stature internationale?
Il a bien buté en demi-finale.
Ouais, mais quand il n'y a pas de pression, c'est facile. Vu le scénario du match, on peut pas parler de pression. Il a joué dans un fauteuil tout le match, il avait 2 heures pour faire ses choix et il a eu des pénalités assez faciles à tenter.
En finale de Coupe d'Europe, ils vont lui mettre la pression.
Voilà, et en finale de Coupe d'Europe, il a pas passé le même match, il a laissé passer 8 points, ce qui coûte quand même le match au Stade Rochelet autant que le carton rouge de Botia. Aujourd'hui, West, c'est un bon ouvreur. Si La Rochelle l'emporte vendredi, on pourra parler d'un vrai très bon ouvreur, voire d'un grand ouvreur, mais pour l'instant c'est pas le cas.
Écoutez, on a demandé l'avis à Christophe Furios qui est resté aux portes de cette finale, hein, ce qu'il pensait de ce duel à venir, même s'il n'est pas complètement neutre avec l'amour vache qu'il porte aux Toulousains évidemment.
Je serais supporter d'une équipe quand même, hein, mais je la regarderai pas. Moi j'ai trouvé les Toulousains ce soir impactés quand même, hein, physiquement La Rochelle était très costaud vendredi. Après ça va être... probablement un peu le même match assez fermé qu'on a vu en finale de Coupe d'Europe. Deux équipes qui se craignent, qui se respectent, qui sont bâties pour le haut niveau. Donc à mon avis, ça va être une finale fermée, comme on a vu en Coupe d'Europe.
On va s'embêter vendredi soir, messieurs. On va revenir à un jeu d'échecs, vous pensez, Denis?
Pas sûr, parce que si ça tourne bien pour les Rochelais, on peut y perdre une grosse différence. Je sais pas.
D'accord.
Si physiquement ils arrivent à prendre le dessus devant, notamment mais les fermés, mais j'en doute, mais notamment dans les gros pés pénétrants, ça peut leur faire un peu.
Ce sera pas une finale de Super Rugby, hein, rassurez-vous.
On aura
assez de nos doigts pour compter les essais après moi.
Est-ce qu'il y a un duel que vous suivrez plus qu'un autre? Je vous donne quelques-uns. Bayatonio, Skelton Arnold, Aldrit Tolofua, Dupont Kerbarlo, Rottier Colby.
Dupont Kerbarlo, parce que Kerbarlo, on n'en parle pas, personne n'en parle. Il est monstrueux.
On en parle quasiment toutes les semaines dans le podcast.
Je vous en parle, tout, mais il est monstrueux. Hein, il a fait encore une demi-finale de très 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 haut niveau.
C'est
Médard de Lain aussi à l'arrière.
Non mais je veux dire, dans la maîtrise du jeu Rochelais, je veux dire, ce gars-là, il est en train d'être l'homme fort de Rochelle.
Moi, c'est une tornade qui me tombe dessus.
Skelton contre le reste du monde. J'ai envie de voir ce que Skelton il va encore faire, parce que voilà, on a entendu dans le sonore Machno qui expliquait qu'il cassait les mots à lui tout seul. Ouais. J'ai pas le souvenir vraiment sur les 10 dernières années d'avoir vu un joueur aussi dominant.
C'est vrai, c'est incroyable.
Il me bluffe de match en match.
Et la capacité à Antonio aussi à s'inscrire dans cette même dynamique, parce que lui aussi a fortement pesé. Après, on parle de rythme, on parle de Taribo West. Aucun problème.
De Taribo West.
Haribo West.
Même Denis l'a pas fait celle-là. Même Denis l'a pas fait.
Elle est belle celle-là. J'arrive jamais à le dire.
C'est ça le problème. Ils ont pas un vrai ouvreur.
Manu, je suis très contagieux.
C'est ça. Non mais blague à part, juste pour un mot, il va falloir que les Rochelais, avant de penser de mettre du rythme, qu'ils prennent les points. Parce que si tu laisses Toulouse dans le match, parce qu'ils vont avoir
ils sentiront l'odeur du sang.
Exactement.
Bon, dans cette liste, moi je vous avais cité, sans que vous sachiez, on a cité le nom du frelon, suspense.
RMC, entre les poteaux, lancé comme un frelon.
Arthur Retière est sorti de sa tanière au bon moment, titulaire vendredi, il nous a rappelé quel joueur il était quand même, parce que ça fait plusieurs mois qu'on l'avait un peu oublié, Pierre.
Bah ouais, tu l'as dit Wilfried, on avait presque perdu l'habitude de voir les Rochelais s'écrouler dans l'embut, et c'est pas qu'une impression, parce que face au Racing, Arthur Retière a marqué son premier essai en top 14 en 2021. Pas de quoi le pousser à fêter son essai, lui qui ne le fait jamais. Des chiffres étonnants, mais il faut dire que du côté Rochelais, il est passé de titulaire indiscutable à remplaçant, le tout en moins de 6 mois, poussé sur le banc par les deux phénomènes, Roule et Leeds. Une ligne rochelaise plus faible sur le papier, mais plus solide sur le terrain face au Racing, qu'a salué Romain Sazi après la rencontre.
Nos trois quarts aussi très performants. On avait deux pièces maîtresses qui nous manquaient, mais faut tirer un coup de chapeau aux joueurs qui les ont remplacés. C'était une équipe de chiens.
Et notamment un petit roquet, Arthur Retière, titulaire donc suite aux absences de Doumerou, Bottia Aguillon et Saint-Zel et au recentrage de Raymond Roule. Il a prouvé trois choses face au Racing. 1. Que le Stade Rochelais a un effectif plus risque que jamais. 2. Que les trois quarts maritimes n'avaient pas grand-chose à envier au Galactique. Et 3. Qu'il était peut-être de retour au top 9 mois après sa sélection en équipe de France. C'est aussi le constat de son capitaine Romain Sazi qui salue les joueurs qui ont gagné ou regagné leur place.
Et honnêtement, quand tu vois la prestation de Jules ce soir ou même de toute la ligne de trois quarts, même Arthur a été pas mal dans le dur ces dernières semaines. Et quand il nous sort une prestation comme ça, on retrouve le vrai Arthur, le vrai Fifou, comme j'aime bien l'appeler. Donc c'était un électron assez libre ce soir, donc c'est très bien.
Un petit mot doux, Fifou qui colle à son jeu et à sa personnalité, imprévisible, puncher et mordant. Face à Toulouse, Arthur Retière n'a pas encore la garantie d'être présent sur le terrain, mais il y a une certitude désormais. John O'Gibbs et Ronan O'Gara risquent d'avoir quelques mots de tête au moment d'annoncer l'équipe.
On aime ce genre de joueur, Denis, hein. Arthur Retière, imprévisible.
Moi, j'ai eu plusieurs fois avec Barbarian français, c'est un garçon adorable. Très pro, même si on a l'impression qu'il c'est un garçon qui est à l'ancienne, mais après il est insaisissable. Moi, plusieurs fois, j'avais parlé à Jacques Brunel à l'époque, je lui ai dit mais pourquoi tu le prends pas ? Il m'a jamais répondu et je pensais qu'il pouvait avoir sa chance à l'époque, déjà il y a 3-4 ans, parce qu'il était insaisissable. Et vrai que parfois il fait des différences énormes. Alors on peut lui reprocher que dans la continuité du jeu, parfois il est
sur les ballons.
Sur les ballons, mais bon, après, voilà, si tu peux, t'as des joueurs parfaits, on n'en a pas.
Ouais. Mais est-ce qu'il s'est passé premier, ça, Jeff? Jeff, il a été en équipe de France, il a eu une sélection l'automne dernier et derrière même pas appelé dans les groupes élargis. Ouais. C'était brutal, qu'est-ce qui s'est passé?
Effectivement, c'était un peu bizarre parce que c'était contre l'Irlande fin octobre pour la fin du tournoi Destination. Et je me rappelle, j'étais très bien, j'étais à l'entraînement à Marcoussis et dans l'équipe probable des potentiels titulaires, le mercredi à Marcoussis, il est avec les titulaires. Le lendemain, composition d'équipe, il doit se contenter d'une place de remplaçant. Et à l'occasion, Fabien Galthié avait expliqué, etc., que pour peut-être pour plusieurs raisons, il avait ajouté « on gagne sa place à l'entraînement ». Et on a l'impression que ce jour-là, peut-être qu'il a perdu sa place à l'entraînement, il n'est pas revenu après, il n'a plus aucune sélection, il n'a que 7 minutes avec l'équipe de France. Et c'est vrai que c'est assez étonnant parce qu'intrinsèquement, c'est un grand joueur qui pourrait aider cette équipe de France.
Et ça lui a fait très très mal à la tête au sortir du tournoi.
Il a disparu après, ouais, c'est vrai. Alors on suivra ce trublion qui s'extirpe souvent des situations les plus compliquées en espérant aussi voir la balle à l'aile au Stade de France, comme ça la vie serait belle, comme disait l'autre, qu'on salue d'ailleurs. On était entré en mêlée, messieurs, maintenant on la relève.
RMC, entre les poteaux, la boîte à gifles.
Pam, Pierre Amiche qui passe la main, boum, qui la relève, une boîte à gifles qui en est une sans en être, parce que évidemment on va parler de la tournée du 15 de France en Australie. On sait depuis longtemps que ces tournées en toute fin de saison, sans tous les joueurs, en l'occurrence là les finalistes, mais d'autres cadres aussi manquants, c'est pas une préparation idéale. Mais là encore plus parce que les joueurs sont partis ce lundi, direction Sydney, Melbourne et Brisbane pour 3 tests dans ces villes les 7, 13 et 17 juillet, une 14aine et 3 matchs en 10 jours et 42 joueurs au départ dans une liste, Jeff, qui ressemble à aucune autre publiée par le sélectionneur Fabien Galthié auparavant.
Ouais, ça ressemble à une liste tout simplement pour une tournée d'été du 15 de France. Malheureusement, encore une tournée casse-gueule pour ces Bleus. Quelques chiffres d'abord sur les 42 joueurs, 22 joueurs à 0 sélection, 22 bisous, 4 sélections de moyenne par joueur, sachant que Teddy Thomas est le joueur le plus capé avec 27 apparitions sous le maillot de l'équipe de France devant Romain. Comment tu l'appelles, Denis? Romain Tao?
Tao.
Ouais, à peu près. Ouais.
Fouino,
25.
Voilà. Taribo.
Taribo Tao.
Et moi, je réponds en plus.
Deux joueurs qui évoluaient en Pro D2 cette saison, le pilier Quentin et peu Quentin Walker Texas Ranger, et l'arrière Melvin Jaminet.
Il n'y a plus de respect du tout pour le nombre de joueurs. Quoi. Ça y est, on a complètement lâché la rampe, là, vivant la fin de saison.
Les deux qui ont largement contribué à la remontée de SAP en top 14. Oh là là. Seulement deux trentenaires, dont Teddy Riban, dont on vient de parler. Bref, vous l'aurez compris, c'est un groupe inédit, sans grande expérience, avec beaucoup d'absents, les finalistes sont pas là, Baye, Marchand, Cross, Dupont, Ntamack, Ramos, Antonio, Aldrit ou encore Dulin pour citer que cela, des joueurs qui sont laissés au repos, Jalibert, Vakatawa, Awas, Willemse notamment, et enfin pas mal de blessés, on pense au capitaine Charles Olivon, Baptiste Serin ou Gaël Ficou qui avait l'étoffe aussi pour prendre le brassard, Maxime Loucou ou encore les talonneurs du Racing Camille Chat et Teddy Pobini, ça fait beaucoup, bon courage à Anthony Jolon qui sera capitaine pour cette tournée.
Denis, t'attends quoi de ces trois matchs?
Ben moi, je trouve que c'est super pour les. D'abord, il y a pas le choix, donc.
On dirait la tournée des babas, alors il peut.
Mais non, mais d'abord, on n'avait pas le choix, donc on va faire la fine bouche. Après, je pense qu'il y a certains joueurs en devenir à 2 ans d'une Coupe du Monde, de les voir confrontés au plus haut niveau, parce que les Australiens, ça va piquer, parce qu'ils vont vouloir gagner sur leur terre et montrer qu'ils sont revenus au plus haut niveau, même s'il y a des jeunes aussi de leur côté. Mais je pense quand même qu'il faut des matchs comme ça pour savoir réellement le niveau de certains. On les voit en top 14, mais au niveau après, ben, il faut pas qu'ils aient l'appréhension justement de jouer ces matchs internationaux qui sont pas évidents.
Ah ben, quel jeu, pardon? Oui.
Manu. Non, pas d'appréhension, tout va bien se passer.
Verra bien. Ouais. Quel joueur vous avez envie de voir là? Chacun rapidement. Est-ce qu'il y a un joueur que vous voulez voir sous maillot bleu, qui vous intéresse, vous êtes curieux de sa prestation?
Ah si, moi j'en ai un. Buros. Alors là, ce joueur-là, il m'épate depuis 6 mois.
L'arrière de l'UBB, ouais.
Il a été moins en vue sur la demi-finale. Hein. Ouais. Tu as raison, Denis, mais
moins en vue sur la demi-finale. Ouais. Contexte,
il donne un bon ballon pour l'âme.
Le contexte était, ouais. En plus, il donne un bon ballon à l'âme qui fait marquer.
Sachant que Fabien Galthié a dit qu'il y aurait une équipe dans les colonnes du middle, mon cher Manu, qu'une équipe pour le premier et le troisième test et une équipe pour le test du milieu. Hein. Ça se passerait comme
ouais,
ça apparemment.
Exactement, ouais.
Des joueurs comme ça? Non,
moi c'est plus savoir si ça va être une tournée sacrifiée.
Vous n'avez pas bien regardé la liste, c'est ça?
Non, c'est pas ça, c'est juste que en fait moi je me pose juste la question sur le bien fondé de cette tournée.
Mais t'es obligé de les jouer pour les raisons financières, on le sait.
Bah oui, mais les raisons financières elles sont surtout australiennes. Là.
Mais oui, mais sinon tu les appauvris, sinon comment ils font?
Si tu veux les recevoir en novembre ou plus tard
d'autres. Donc on peut se satisfaire d'une tournée avec 40 de bonhommes qu'on verra peut-être jamais plus en bleu, qui vont prendre 3 branlées à l'autre bout du monde en plein Covid.
Mais je suis pas sûr, voilà. Mais pas du tout.
Je vous dis simplement,
regarde,
moi,
ça s'est pas passé comme ça en Nouvelle-Zélande. En Afrique du Sud. Ah non, ça va pas passé comme ça.
En Australie. Désolé, quand tu joues les Anglais avec l'équipe B, t'as failli débattre.
Ça fait 30 ans qu'on n'a pas gagné en Australie. Alors
juste une chose, monsieur, parce que là on va être juste. Pierre, où en est l'Australie en plus?
Je vais quand même finir. Non, alors l'Australie. La dernière fois qu'on a vu l'Australie en 2020, c'était 4 matchs face à la Nouvelle-Zélande. Ils s'en étaient plutôt bien sortis sur les deux premiers, une victoire à match nul, puis avaient explosé tranquillement parce qu'ils n'ont pas forcément l'effectif pour tenir 4 matchs face à la meilleure équipe du monde. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la composition du groupe australien, mais 2-3 détails quand même, 2-3 éléments. Ce qui frappe, c'est le renouvellement presque total de l'effectif. En moins de 5 ans, ils ont tout changé. Il n'y a que 3 joueurs qui ont joué contre l'équipe de France en 2016, c'est les 3 piliers. Donc tout le reste, c'est tout nouveau. Plus généralement, le rugby australien, on sait, est en crise. Ils étaient au bord du dépôt de bilan il y a peu. Les franchises australiennes, elles ont fait une campagne catastrophique dans le super rugby, parce qu'il y a 4 franchises, 20 matchs, ils en ont gagné que 2 face aux franchises néo-zélandaise. Donc ça sent pas très bon. Et pourtant, il y a quelques jeunes de grand talent. Je pense à Naïs Arani, Salakayaloto ou encore Koroi Bété. Il n'y a pas autant de profondeur que dans les autres nations du Sud, on le sait avec l'Australie, il y a globalement 30 joueurs, alors là ils ont étoffé le groupe. Et la dernière chose, c'est que justement ce manque d'épaisseur, c'est souligné par le retour de Tim Anik à 34 barreaux et qui va probablement être titulaire, de James O'Connor ou de Michael Hopper après une saison entière au Japon. Il y aura un absent et c'est lui que j'aurais aimé voir, mais il sera pas là, c'est Petaya, la pépite australienne qui est blessée. Voilà.
Ok, premier rendez-vous, prenez note, hein, Australie, non on n'a plus le temps, France le mercredi 7 juillet, je sais pas qui vous voulait parler, mais c'est j'ai regardé,
Manu,
ça
c'est
fait,
Manu qui veut parler.
C'est pas grave.
Ça fait 5 ans qu'on n'a pas joué l'Australie. La dernière fois, c'était le 19 novembre 2016 au Stade de France, défaite 25 à 23 avec une charnière Machno du Saint. Vous en faites ce que vous voulez.
C'est la première tournée d'été pour Famagal qui est aussi.
Voilà, pour finir, départ du 8 au ras de la mêlée, on prend le côté fermé.
RMC, entre les poteaux.
Côté fermé.
Très vite, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, on va évoquer une autre équipe de France, c'est la 7. Les Bleus battus en finale de tournoi de repêchage par l'Irlande n'iront pas aux Jeux Olympiques. Une immense déception, un vrai coup d'arrêt, Pierre, dans la progression de cette équipe.
Bah oui, c'était un projet qui avait pris forme il y a maintenant plus de 2 ans. On sait que le cycle olympique a été rallongé puisque les Jeux Olympiques avaient été décalés. Et que bah, ça fait 2 ans que l'équipe de France y croyait très fort, que les hommes du 7 s'étaient entraînés comme des fous. Des grosses préparations physiques, des joueurs qui avaient même fait des sacrifices personnels, qui avaient refusé de céder aux sirène du rugby à 15 pour 5 s'rire vraiment dans la durée sur ce projet à 7. Ce qui fait très mal aussi, c'est que de voir que c'est l'Irlande qui va y aller, une équipe qui n'avait pas souvent battu les Bleus. Ce match, c'était un crève-cœur. Monaco, ça aurait dû être la grande fête du rugby français avec la qualification des filles et des garçons. Malheureusement, les garçons vont rester à la maison et c'est peut-être la fin d'un cycle. On pense à Terry Bourawa ou à Pierre-Gilles Lacafia qui commencent à être trentenaires, qui vont peut-être pas encore s'inscrire longtemps sur le HSBC 7. Et ça fait vraiment mal. Personnellement, ça me fait vraiment chier, même pour certains gars qui sont des super bonhommes, qui sont toujours disponibles, qui ont un grand cœur et qui vont nous manquer au jeu.
Ça va être triste de regarder les JO, Manu, Denis, sans voir le maillot bleu chez les garçons, parce qu'on félicite les filles qui ont surclassé leurs adversaires et qui sont, eux, à Tokyo. Ouais.
Mais c'est une grande désillusion, on ne s'attendait pas, surtout qu'on a toujours battu pratiquement cette équipe d'Irlande, et voilà, donc peut-être la pression.
On n'y arrive pas.
Il y avait 2 matchs, hein, l'Angleterre à Colomiers il y a quelques mois, et là.
Ça fait un moment qu'on dit on va y être, on progresse, mais non, dans la vérité, tu
Est-ce qu'il faut plus de moyens, Manu, sur cette équipe.
Mais en même temps, tu fais tous les efforts pour essayer, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça ne suffit pas.
On s'en fout d'avoir tous les efforts pour essayer. Au bout d'un moment, il faut y être, il faut gagner. Et là, on
le
fait pas.
Le problème, c'est que les résultats ont progressé, puisque l'équipe de France avait jamais été aussi forte que juste avant le Covid. Et il y a eu le Covid, les qualifications ont un peu changé, et il y a eu 2 matchs ratés sur les 2 moments les plus importants de la saison, face à l'Angleterre et face à l'Irlande, les 2 tickets olympiques qui sautent. Voilà, c'est dommage, et c'est super triste. Et c'est, voilà.
On va pousser derrière les filles, on va les encourager, parce qu'il y a une super équipe de France.
Elles peuvent être championnes olympiques, faut le dire. Elles en sont capables.
Allez, le rendez-vous à pas louper, messieurs. Stade Toulousain, Stade Rochelet, vendredi à 20h45. Antenne dès 20h sur RMC. Match en intégral, vous coupez le son de la télé, vous mettez RMC, on va se régaler. Bonne semaine, elle va être longue hein, pour les supporters de chaque équipe. Pour toi, Manu, supporter de Stade Toulousain.
Ah oui, Fred, on se donne rendez-vous samedi sur le vieux port de La Rochelle, d'accord.
On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière épisode de la saison. Ciao.
Ciao.